Voilà, juste ça sera pour cette fois-ci. Je vous expliquerai pourquoi. On va commencer par prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre-Dame du Mont-Carmel, notre Père Saint-Joseph, notre Mère Sainte-Thérèse. Quand on dit, alors là c'est la manière des carmes, Notre-Dame de vie, notre Mère Sainte-Thérèse, qu'est-ce qu'on fait? On s'adresse à une personne vivante qui est là, qui est vraiment là, et qui, pour nous les carmes, pour nous de la grande famille du Carmel, est notre mère, et une mère qui n'est pas d'abord une série d'écrits, qui n'est pas 2000 pages d'œuvres complètes, mais une personne vivante qui est là présente dans la communion des saints et qui s'intéresse à nous et qui veut nous aider. Pour un carme, la proximité avec notre mère Sainte Thérèse, avec Sainte Thérèse d'Avila, c'est une proximité de chaque instant, de chaque minute. La proximité d'une personne qui est vivante, qui nous accompagne. Un carme, il pense à Sainte Thérèse d'Avila comme étant là, même s'il ne la voit évidemment pas avec les yeux, il y pense tous les jours. Il y pense même plusieurs fois par jour. Et même pour certains qui n'arrivent pas à en décoller, ça peut arriver même quasiment toutes les heures. Une personne vivante. Pour vous aider à faire le rapprochement, au XVIIe siècle, Sainte Thérèse d'Avila a un rayonnement tout à fait comparable à la petite Thérèse à notre époque. Tout le monde la connaît, et quand on la connaît, on pense pas, quand vous pensez à la petite Thérèse, vous ne pensez pas d'abord à un volume, au volume de l'histoire d'une âme. Vous voyez tout de suite, j'imagine pour beaucoup d'entre vous, c'est mon cas, une des photos de la petite Thérèse. Hein ? C'est une personne vivante qui est là, qui vous accompagne, avec laquelle vous avez une histoire, hein, qui vous a rendu de multiples services, qui vous a consolé un certain nombre de fois, par laquelle vous avez reçu un certain nombre de grâces. Et c'est ce qu'exprime, hein, ce phénomène si beau des reliques de la petite Thérèse. Partout où elle va, elle attire les foules. La grâce de la grande Thérèse, c'est une grâce qui est tout à fait comparable. Au XVIIe siècle, tout le monde, ou presque, tout ce que l'Église catholique compte de vivant, hein, de moteur dans ce grand mouvement de la réforme catholique du XVIIe siècle, connaît, fréquente Thérèse. Comment ils l'ont découvert? Ils l'ont découvert d'abord par des personnes, par les fils et les filles de Thérèse, les carmes et les carmélites. Les carmélites, au XVIIe siècle, jouent un rôle, mais caché certes, mais en même temps très important, reconnu par les historiens, dans ce mouvement de la réforme catholique. Alors évidemment par leur œuvre de prière, qui est le fondamental et qui reste caché, mais aussi par leur témoignage de vie. C'est le grand humaniste Louis de Léon qui dit dans son introduction aux œuvres complètes de Thérèse à la première édition en 1588, « De mon vivant, je n'ai malheureusement pas eu la chance de rencontrer la mère Thérèse, mais je l'ai rencontrée par ses filles. J'ai eu la chance de la rencontrer par ses filles. Et en ses filles, je vois Thérèse vivante. » Un contact avec des personnes. Deuxième aspect qui ont mis en contact dans ce XVIIe siècle Thérèse avec les membres de l'Église, c'est pas d'abord les œuvres, mais c'est sa vie. Le contact avec le récit de sa vie, toutes les histoires qu'on racontait sur elle, alors qu'il passait par des livres, en particulier deux biographies qui ont eu un succès énorme. La première biographie, écrite par un jésuite, le père Ribera, qui avait connu personnellement Thérèse, qui sort aussi en 1588 ou peut-être 1587. Et puis une autre vie, écrite en fait par un carme, Thomas de Jésus, même si c'est sous le nom d'un évêque, Diego d'Yepes, publié vers 1595. Et aussi des vies pour tous, y compris la première vie dans ce qu'on pourrait appeler en bande dessinée, qui sort vers 1610 à Bruxelles sous la houlette d'Anne de Jésus. Une vie en images qui a eu un succès fou et qui a mis en contact le peuple chrétien avec cette vie, cette expérience de Thérèse. Ils sont mis à la prier. Ils sont mis à la prier. Autre point de rayonnement, les portraits de Thérèse qui circulent dans toute l'Europe. Hein, on fait des copies des portraits existants et il y en a partout. Et même, en soi, ça aurait même pu être assez périlleux, mais la Thérèse a échappé par grâce à ça. Mais en fait, honnêtement, il y aurait eu de quoi faire un sérieux procès de culte avant la canonisation à Thérèse. Un petit exemple, le monastère des Clarisses, qui est juste à côté de Saint-Joseph d'Avila, à Avila, à Las Gordillas, à 200 mètres, 150 mètres, et bien, en toute simplicité, elles avaient mis un portrait de Thérèse à côté de l'autel principal de l'église, bien avant la canonisation, pour faciliter les dévotions des sœurs. Là, on est en plein, si Rome avait su ça, ça se serait mal passé. Donc, vous voyez, un contact direct avec la vie, et puis évidemment aussi, et je vais évidemment y revenir, les œuvres de Thérèse, et en particulier, dans un milieu plus large que le milieu carmélitain, le récit de la vie, l'autobiographie, qui est l'histoire d'une âme, version XVIe siècle. Et tout le monde lit le livre de la vie, et au contact du livre de la vie, se convertit. Un rayonnement tout à fait comparable à celui de la petite Thérèse. Pourquoi cette longue introduction, cette longue insistance? C'est pour vous dire que la grâce de Thérèse, c'est d'abord, avant d'être des écrits, c'est la grâce d'une personne vivante avec laquelle on rentre en relation par beaucoup de médiation. Par beaucoup de médiation. Et comme pauvre petit carme, ce que je souhaiterais, si le Seigneur le veut, parce que là c'est une grâce et donc je ne peux pas mettre la main dessus, mais si le Seigneur dans sa miséricorde veut bien que je sois un petit instrument, et puis plus largement tout au cours de cette semaine, que cette semaine soit un instrument pour que vous rencontriez la personne vivante de Thérèse, que Thérèse vous choisisse comme ami personnel, alors là moi comme pauvre petit carme, je serais très heureux. Il n'y a rien de mieux. Thérèse est une très bonne amie. Si elle vous a mis la main, c'est quelque chose qu'on dit dans le Carmel, chez les frères et sœurs, c'est une fois qu'elle a attrapé quelqu'un par les cheveux, elle ne le lâche plus. Et alors je souhaite, rassurez-vous, Thérèse, elle arrive même à prendre les chauves. Si, comme je le pense, je crois profondément, Thérèse veut prendre par les cheveux un certain nombre d'entre vous, rassurez-vous, il y a aussi les voiles, ça ne lui pose pas de problème, elle arrive à prendre tout ça. Voilà, c'est un cadeau merveilleux. Et elle a besoin de circonstances comme cette semaine pour pouvoir se faire des amis. Alors, pour se faire un ami, il faut la connaître. Il faut connaître son tempérament. Alors, dans mes deux exposés d'aujourd'hui, on va évoquer Thérèse, son tempérament, sa vie, voilà. Et puis aussi ses écrits, parce que ses écrits, c'est une des médiations, mais une médiation évidemment fondamentale, par laquelle elle rentre en relation avec nous. Une fois qu'on est ami avec Thérèse, et bien évidemment qu'on a un très bon ami, une très bonne amie, on veut la rencontrer le plus souvent possible, et c'est fantastique, parce qu'on a un moyen de la rencontrer à portée de main, et pour qu'elle nous parle, qu'elle nous enseigne, etc. Et ça s'appelle les œuvres complètes. Qui après, qu'on est amis, curieusement, elles traînent toujours quelque part au pied du lit ou sur la table de chevet, quoi. Et puis, quand on a un coup de blues, ça c'est un autre truc des carmes, c'est que un coup de blues, qu'est-ce qu'on fait? On prend les œuvres de nos saints, on les lit pendant 2 heures, on ne sait pas pourquoi, mais ça va beaucoup mieux après deux heures de lecture. Alors, pour rentrer en contact avec Thérèse, tout d'abord, une présentation, ce que j'appelais dans mon plan, une mise en situation. que vous voyez dans quel cadre ça se passe, enfin les grandes bornes de la vie de Thérèse. Donc Bernard nous a fort brillamment dressé ce tableau hein, du XVIe siècle espagnol. Quand on présente la vie de Thérèse, on commence toujours par cette série contexte historique hein, que Bernard a relevé au début. Voilà, l'historien de service est toujours voilà le premier à arriver. Pour Thérèse, c'est pas simplement une forme, hein, enfin, qu'il faudrait faire passer par le contexte historique. C'est une nécessité absolue. Parce que la grâce de Thérèse, c'est la grâce d'une personne. Et pour rejoindre cette personne, on la rejoint dans une époque. Et donc, toute introduction à Thérèse d'Avila, forcément, elle commence par dresser un tableau historique de façon à ce qu'on se plonge avec elle. Vous voyez, on la rejoint. Par la foi, on la rejoint au XVIe siècle. Et donc, quand on est ami de Thérèse, généralement, on devient intéressé par son époque, son cadre de vie, etc. Bah, comme un ami, vous aimez savoir où il vit, connaître sa maison, etc. Et donc, d'où l'importance de connaître ce contexte historique qui nous la rend plus familière. Alors, mise en situation, il faut que vous appreniez 3 dates et demie. 3 dates, c'est le strict minimum. Bon, il y en a une, sachant qu'il y en a une que vous savez déjà. Et puis la 4e date, elle est quand même bien, à savoir. Les 3 dates de la vie de Thérèse, c'est sa naissance, vous connaissez tous par cœur, 1515, elle manifeste son grand amour de la France dès sa naissance, sa mort, 1582, les 2 bornes, et au milieu, une date fondamentale sur laquelle je vais passer une partie de ma journée, une date qui va être aussi l'occasion pour vous de la lecture de texte de tout à l'heure, c'est 1554, ce qu'on appelle habituellement sa conversion. Donc, la vie de Thérèse, on la divise en 2, du point de vue spirituel, c'est de 1515 à 1554 et de 1554 à 1582. 1554, quelle est l'occasion de sa conversion? Donc, j'y reviendrai. D'abord, elle lit les Confessions de Saint-Augustin. Et ensuite, et c'est ça d'habitude qui nous marque, un jour en entrant dans sa cellule à l'incarnation, donc une petite cellule modeste de 70 mètres carrés en duplex, elle arrive là et la première pièce en venant du cloître, c'est l'oratoire. Et on a posé là dans un coin, comme ça donnait sur le cloître où il y avait les processions, suite à une procession, on a posé un tableau représentant, c'est pas très bien, mais voilà, le Christ très blessé, qui a servi à une procession pendant le carême 1554. Elle tombe, par hasard, si je puis dire, devant ce tableau, et où on voit toutes les souffrances du Christ pendant sa passion, probablement avec Marie-Madeleine à ses pieds. Et là, elle est touchée au cœur, et à partir de ce moment-là, elle se dit, voilà, j'ai un seul sauveur, c'est le Christ. Je vais tout lui remettre. Et là, sa vie spirituelle, qui était déjà pas médiocre, hein, on en reparlera, mais prend... C'est la fusée. À partir de 5, elle se remet toute dans les mains du bon Dieu qui, à partir de ce moment-là, va la transformer de fond en comble. Donc, 3 dates, 1515, 1582, et puis au milieu, 1554, quand elle a 39 ans. Alors, vous pouvez quand même retenir une 4e date hein, qui a son importance, c'est la fondation de Saint-Joseph d'Avila. C'est le début de son œuvre de réformatrice, c'est 24 août 1562. Tout ça, je vous l'ai mis, c'est au dos de la chronologie du Père Bernard. Voilà, ces 4 dates. Avec ces 4 dates, vous avez les bons repères, vous avez l'essentiel. Alors, on peut, maintenant vous avez ces 4 dates, on peut remplir un peu les trous. Je reprends donc les quelques dates que j'ai mis sur mon plan. Mort de sa mère en 1528, alors qu'elle a 13 ans. Et là, elle remet sa vie à la Vierge Marie. 1536, alors, bon, les spécialistes voilà, discutent. Bon, là, je vous donne ma version à moi. Début 1536, elle rentre au couvent des Carmélites d'Avila, le couvent de l'Incarnation. 1554, sa seconde conversion. 1562, la fondation de Saint-Joseph d'Avila. Et de 1567 à 1582, elle fonde 16 autres couvents dans toute l'Espagne. 16 autres couvents de carmélites. Et en 1568, elle fonde, avec l'aide de Saint Jean de la Croix, le premier couvent des Carmes des Chaussées à Duruelo. Pour son rayonnement, elle est canonisée en 1622, en même temps que quatre autres grands saints, enfin trois qui sont très connus et un qui est totalement inconnu en dehors de l'Espagne. Saint François Xavier, Saint Ignace de Loyola, Saint Philippe Néri. Donc ça, c'est les trois saints très connus. Donc c'est une grande fête de l'Espagne. Hein. C'est le triomphe, si vous voulez, du catholicisme espagnol. C'est ce 1622, cette canonisation. Tous les frais sont payés par la couronne espagnole, qui en fait une espèce de triomphe hein, personnel. Et puis le dernier, qui est beaucoup moins connu, c'est Saint Isidore le Laboureur, patron de Madrid, qui est fait en fait, bon, même pour tout vous dire, est remise en cause même son existence réelle historique. Hein. En fait, c'est une espèce de copie. Donc, vous savez que Madrid est la capitale d'Espagne, donc sur ordre de Philippe II, à partir de 1561 ou 62. Et donc, il lui faut un saint patron. Et en fait, on va copier le saint patron de Séville en faisant une version un peu arrangée, voilà. Et c'est ce fameux saint Isidore le Laboureur, qui a vécu, je crois, au XIIe ou XIIIe siècle, mais enfin. Là, c'est un personnage qu'on peut dire quand même relativement secondaire. Et puis, en 1970, elle est déclarée docteur de l'Église. Alors, elle est en fait, si vous regardez la date de déclaration officielle, elle est le second docteur de l'Église après Catherine de Sienne, quelques jours après. Mais, l'annonce qu'elle serait docteur de l'Église plus tard, ça a été faite par un discours de Paul VI à un grand rassemblement d'action catholique, où il annonce simultanément Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Catherine de Sienne, mais il annonce Sainte Thérèse d'Avila avant Sainte Catherine de Sienne. Alors, pourquoi, justement, et ça va nous introduire à mon deuxième paragraphe, pourquoi Paul VI, hein, c'est un intéressant discours, hein, vous pourrez aller voir ça, c'est dans la documentation catholique. Pourquoi il a voulu déclarer Thérèse docteur de l'Église? Bon, d'abord, il y avait en fait la Vox Populi. En réalité, Thérèse était surnommée docteur sans en avoir officiellement le titre depuis très longtemps, depuis plusieurs siècles. En témoigne la représentation assez classique, en tout cas en Espagne, mais je pense qu'on doit en trouver des représentations en dehors d'Espagne, de Thérèse avec le chapeau de docteur à ses pieds. On lui a reconnu dès le départ, très très vite, une autorité d'enseignement. Pourquoi? À quel titre? Paul VI, dans ce discours, la donne en fait comme mère, comme maîtresse de vie spirituelle. Il dit à ce grand rassemblement là d'action catholique, il faut absolument, si vous voulez porter du fruit, que vous mettiez à la base de votre apostolat une relation personnelle avec le Christ. Et c'est pour cela que je vais déclarer Thérèse officiellement docteur de l'Église comme docteur de la vie spirituelle et en particulier docteur de la vie de raison. Et après il dit, et dans la foulée je mettrai aussi Catherine de Sienne, mais il n'explique pas pourquoi. Donc Thérèse, elle est docteur hein, pour accompagner notre vie spirituelle. Elle est plus que docteur. Quand elle est déclarée docteur de l'Église, donc en début octobre 1970, on lui donne un titre, comme c'est toujours le cas pour un docteur. Quel est ce titre? C'est le titre de mère des spirituels. Mère, intéressant, c'est pas maîtresse. Docteur de l'Église, donc avec un enseignement consistant qui va nourrir l'intelligence pour pouvoir conduire notre vie. Mais on ne se limite pas à cette dimension-là. On lui donne la dimension de mère. Que fait une mère? Une mère, elle engendre. Elle porte la vie. Elle accompagne la vie. Elle transmet la vie. C'est le lieu. Et le sein maternel, c'est le lieu où on reçoit la vie. Hein? Thérèse, elle va... Sa grâce propre, c'est une grâce inouïe, hein? C'est de transmettre cette vie spirituelle. Et d'accompagner la croissance de la vie spirituelle. D'où l'importance de cette relation. Moi, je pense qu'on peut profiter pleinement de Thérèse que si on rentre en relation par la communion des saints avec elle. Alors là, c'est vraiment une très bonne mère. Hein. Une très, très bonne mère. qui, dans les passages difficiles, forcément difficiles à certains moments de notre vie spirituelle, va nous accompagner. Quand on n'en peut plus, ben voilà, elle nous console un peu à la manière d'une mère. En même temps, elle est déjà passée par là. Elle est déjà passée par là. Donc elle va pouvoir nous aider, nous donner les petites lumières dont on a besoin. Et on ne va pas se sentir seul. On va toujours être avec elle. Alors pour être mère, le Seigneur a ordonné, c'est sa vocation propre dans l'Église, c'est sa vocation propre. Vous pouvez reprendre, ça fait partie, c'est peut-être mon chapitre préféré de Je veux voir Dieu, c'est le dernier chapitre, sainteté pour l'Église. C'est clair que Marie-Eugène, il contemple cette grâce propre qui a été cette mission propre qui est donnée à chaque... On est tous appelés à avoir notre mission propre, si vous voulez, dans l'Église. Et Marie-Eugène, il contemple cette mission qui nous est donnée à partir de la mission qui a été donnée en propre à Sainte Thérèse et à Saint Jean de la Croix. Et il compare. Il contemple dans ce dernier chapitre, il contemple la grâce propre, le mystère propre de Thérèse, qui là est une grâce de maternité. Le Seigneur, donc, il avait cet appel pour Thérèse. Thérèse s'est laissée faire, s'est laissée transformer, ce qui fait qu'elle est docteur de l'Église, mère des spirituels. Et il va ordonner toute sa vie en fonction de ça, dès sa conception. Avec, d'abord, il va ordonner sa vie, et c'est pour ça que je vous ai mis comme titre de cette première conférence, une vie ordonnée par Dieu. Il va ordonner sa vie pour qu'elle soit mère de son vivant, et surtout plus tard, 4 siècles plus tard, qu'elle soit encore mère, et qu'elle ait les moyens de le faire. Avec plusieurs aspects. D'abord, il ordonne sa vie de telle manière à ce que, et ça va faire une première introduction aux écrits, en 1577, à la fin de sa vie, Thérèse puisse écrire à nouveau sa vie, c'est le livre des demeures, de manière universelle, que les étapes de la vie de Thérèse soient pour nous, pour les hommes qui suivront, qui liront ses écrits, qui la fréquenteront, que les étapes de la vie de Thérèse soient des phares pour notre propre vie spirituelle, de manière universelle. Le livre des demeures, c'est d'abord un récit de la vie de Thérèse. Je vous en parlerai un peu cet après-midi. C'est d'abord un récit de la vie de Thérèse, de ce qu'il y a d'unique, mais le Seigneur a ordonné la vie unique de Thérèse de telle manière à ce qu'à chaque étape, il y ait comme un phare qui vaille pour d'autres. Pour nous, un phare qui puisse éclairer toute ou presque toute vie spirituelle. Il n'y a pas, dans la vie spirituelle, il y a le particulier qui est là, ce qui fait qu'il y a toujours des exceptions, c'est normal. Mais chaque demeure va être comme un phare qui va éclairer toute vie spirituelle, même si nous, on ne va pas vivre notre vie spirituelle, je rentre bravement dans la première demeure, alors si ça, forcément. Mais après, et je passe de la première à la deuxième, et de la deuxième à la troisième, vous voyez, souvent, c'est une vision caricaturale. Thérèse, d'ailleurs, elle n'a pas voulu dire ça. Vous n'avez qu'à relire l'épilogue du château intérieur. Donc, première chose, il ordonne cette vie. Ensuite, il y a une grâce qui est significative de cette maternité spirituelle. Et c'est pour ça que dans l'ordre du Carmel, on a à la fois la solennité du 15 octobre, qui est à l'anniversaire de sa mort. Vous savez qu'elle est morte la nuit du 4 au 15 octobre 1582. Et elle a trouvé le moyen, ou le Seigneur plutôt, l'a accueillie dans la vie, au moment du changement de calendrier, du passage du calendrier julien au calendrier grégorien. Et donc, au soir du 4 octobre, on passait directement au 15. Et Thérèse, elle est morte à ce moment-là. Bon. Donc, la première fête, donc c'est le 15 octobre, la solennité. Et puis, on fait mémoire au Carmel de le 26 août, la grâce de la transverbération. Alors, cette grâce de la transverbération, qu'est-ce que c'est du point de vue extérieur et après, ce qui est évidemment intéressant, du point de vue intérieur, ce qui explique qu'on en fasse mémoire aujourd'hui. Du point de vue extérieur, Thérèse la raconte, le problème c'est que j'ai toujours une hésitation d'un ou deux numéros, mais c'est à la fin, je crois, du chapitre 28, là c'est de mémoire de la vie, j'irai vérifier, ou sinon c'est 29 ou 27, à la fin du chapitre 28 de la vie, elle voit un ange, vision intérieure, qui est petit mais très beau, tout enflammé d'amour, et qui a une lance qui lui traverse le cœur jusqu'aux entrailles. Et aux entrailles, il faut bien voir avec le mot qu'il y a, hein, on met pudiquement entrailles dans les traductions, mais en réalité, c'est bien le sein maternel. Et laissant Thérèse tout enflammée d'amour. Par la grâce de la transverbération, dont Thérèse dit qu'elle s'est répétée à plusieurs fois, plusieurs reprises, en fait, effectivement, à plusieurs reprises, il semble que la première fois, c'est en 1560, alors qu'elle s'apprête à se lancer dans les préparatifs de la fondation de Saint-Joseph, et jusqu'en, grosso modo, mariage spirituel, ça lui est arrivé à plusieurs reprises, le Seigneur la constitue mère. Il embrase ses entrailles de son amour, de l'Esprit Saint, pour qu'elle puisse être mère à partir de ce moment-là, non seulement d'abord de ses filles carmélites, puis de ses fils carmes, mais aussi, de manière universelle, de tout le peuple chrétien dans sa vie spirituelle. La grâce qui signifie visiblement, qui manifeste cette grâce de maternité spirituelle dans la vie de Thérèse, c'est cette grâce de la transverbération. Ce qui explique qu'on la célèbre, qu'on en fasse mémoire, donc le 26 août. Alors, ça c'est dans la vie de Thérèse. Maintenant, Thérèse est morte en 1582, et depuis, vous avez dû remarquer, on ne la voit plus. Je ne peux pas la voir de mes yeux, je ne peux pas entendre le timbre de sa voix, pourtant qu'est-ce que j'aimerais bien, de mes oreilles. Le Seigneur, il y a besoin de médiation. Il y a besoin de médiation. Et le Seigneur a ordonné un certain nombre de médiations pour nous permettre de la rejoindre. Et là, je vais vous présenter ses écrits. D'abord, de vous montrer la cohérence de ses écrits. Structure de l'enseignement thérésien. Premier moyen. Et les écrits, et pas que les écrits. Premier moyen. Sa vie. Vie de Thérèse dans laquelle resplendissent les sommets de l'œuvre de la grâce. La vie de Thérèse nous fait voir, nous aide à croire, nous met en appétit. Le sens de toutes les visions, paroles intérieures, etc. de Thérèse, c'est quoi? C'est de nous faire voir, comprendre de manière compréhensible immédiatement ce que le Seigneur veut faire en nous de manière discrète. Quand le Seigneur nous parle au cœur, quand il nous touche, en général, on voit rien, on n'entend rien, enfin, vous avez remarqué. Hein. Mais pourtant, c'est bien réel. Il a fait vivre, par contre, en Thérèse, elle pouvait rien... tout ce que le Seigneur faisait de caché en Thérèse, il se débrouillait pour que ça se voit à l'extérieur. Il commence à la toucher, et ben elle rentre en extase, voire elle commence à décoller. Bon, ben ça se voit, il se passe quelque chose. Hein. Les gens qui étaient autour, ils voyaient quelque chose. Hein. Ils disaient, oulala. Alors, au début, ils disent, c'est le démon, pauvre Thérèse. Mais c'était l'œuvre de Dieu qui se voyait. Quand vous lisez la vie de Thérèse, et qu'elle commence à vous raconter toutes ses visions, et que Jésus lui parle, et qu'elle lui répond, et qu'elle voit Jésus et tout ça, bon, tout ça, ça se passe de manière intérieure au passage. Hein. Thérèse n'a jamais entendu avec les oreilles, ni vu avec les yeux. C'est toujours des images intérieures, des paroles intérieures. Vous lisez ça, vous vous dites, c'est fantastique, elle a une relation avec Jésus, moi je comprends ça. Hein. Je connais un jeune qui avait ce désir profond de relation avec Jésus. Mais il avait l'impression que quand il parlait, c'était toujours un monologue. Hein. Jésus, ok, je lui parle, mais la réponse, je l'attends encore. Or, ce jeune, il avait cette aspiration à une relation, une vraie relation, qui suppose une relation dans les deux sens. Et en lisant la vie de Thérèse, là, ce n'était pas le récit par elle-même, mais une vie de Thérèse, il a compris, il était fasciné, parce que il voyait que Thérèse, il comprenait tout de suite que Thérèse, elle avait une vraie relation avec Jésus, parce que Jésus lui répondait, certes sous forme de paroles et de visions, mais il y avait une vraie relation. Et donc là, il s'est dit, mais moi aussi, je veux ça. Moi aussi, je veux une relation dans les deux sens. Et par là, le Seigneur, ce qu'il m'a expliqué, le Seigneur lui disait, mais oui, bien sûr. Après, évidemment, il a fallu purifier un peu tout ça, expliquer que cette relation dans les deux sens, elle passe pas forcément par des visions où on voit, même avec les sens intérieurs, où on entend. Mais c'est bien réel. Si le Seigneur a façonné la vie de Thérèse avec toutes ses grâces extraordinaires, c'est pourquoi ? C'est pour nous. Pour nous faire comprendre, dans un langage qui nous est accessible, l'intimité et la réalité avec un contenu, de cette relation qu'il veut avoir avec chacun de nous. Et donc, le Seigneur a façonné toute la vie de Thérèse de façon à ce que tout se voit. Absolument, tout se voit. Alors, pour qu'on ait un accès à cette vie de Thérèse, le Seigneur a prévu, a organisé tout un tas de médiations concrètes. C'est d'abord le récit que Thérèse fait de sa vie, le livre de la vie, où elle raconte. Et au cours des quatre siècles passés, c'est incroyable le nombre de personnes qui ont changé de vie à la suite du lecteur de la lecture de la vie. Une des plus connues, c'est évidemment Edith Stein, Thérèse Bénédicte, mais il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres. Le récit de la vie, le plus évident. Il y a beaucoup d'autres moyens. Le Seigneur s'est débrouillé pour qu'on ait énormément de témoignages d'époque, encore conservés aujourd'hui, sur la vie de Thérèse. Thérèse est certainement une des personnes du XVIe siècle sur laquelle on a la plus grosse quantité de documentation. On arrive à suivre, avec 4 siècles de distance, pour les, disons, 10-15 dernières années de sa vie, on arrive à suivre sa vie semaine après semaine. Il y a très peu de personnages du XVIe siècle pour lesquels on puisse avoir ça. Vous donnez un petit exemple. Les procès de canonisation, ils ont été commencés très vite après la mort de Thérèse. On a déjà commencé les premières démarches en 1588, et les documents, les premières déclarations, c'est 1590, donc 8 ans après la mort de Thérèse. Thérèse a rencontré au cours de sa vie un nombre incalculable de personnes, qu'elle a profondément touchées, dont elle a transformé la vie. Tout ce monde-là a voulu déposer aux déclarations. Et comme on était en 1590, beaucoup étaient encore vivants. Si les déclarations étaient publiées intégralement, actuellement il y a 3 plus 2 volumes qui sont publiés. Si l'intégralité était publiée, ça ferait 30 volumes de 600 pages, polysuite, sans retour à la ligne. Vous voyez un peu la masse où les gens y racontent. Alors il y a des trucs qui sont parfois pas très intéressants ou très répétitifs, mais chacun y va de sa petite anecdote. Tout le monde a voulu raconter ce qui lui était arrivé. Donc vous savez, une quantité de choses, mais c'est incroyable. En plus, il y en a qui sont morts avant la déclaration. Mais comme il y avait eu déjà la biographie qui avait été lancée par le père Ribera, 1588, qui est considéré par les historiens comme objectivement un très bon historien, il faut dire aussi qu'il n'y avait pas besoin, vu ce que Thérèse avait vécu, il n'y avait pas besoin d'en rajouter, hein. On était plutôt tenté de vouloir en enlever un peu parce que ça faisait pas crédible, quoi. Et bien, ce père Ribera, dès la mort de Thérèse, il commence à recueillir les témoignages. Et c'est une partie de ses notes sont encore conservées aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de Madrid. Donc ça donne encore d'autres. Voilà. Les archives des villes de Castille où Thérèse a vécu sont en général très bien conservées. Beaucoup mieux proportionnellement que les archives du XVIe siècle des villes équivalentes en France. En tout cas, en vieille Castille. Bon, en Andalousie, avec les guerres civiles, ça a beaucoup plus souffert. Mais, par exemple, vous savez que suite à la fondation de 1562, il y a eu tout un tas d'histoires avec la ville, avec la municipalité. Et donc, la fondation de Saint-Joseph, on en discutait à chaque conseil municipal toutes les semaines. Eh ben, les notes du greffier, de ces conseils municipaux sont intégralement conservés. Donc on sait exactement qui a dit quoi à quel moment au sujet de cette fondation au conseil municipal. Donc on arrive à suivre, mais semaine après semaine, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et plein d'autres choses de ce genre-là. Donc c'est incroyable la masse de documents, la masse d'informations qu'on a sur la vie de Thérèse. À mon sens, il y a vraiment une disposition providentielle. C'est que le Seigneur, il voulait qu'on ait un accès direct, précis, avec des anecdotes, avec plein de détails, sur ce que vivait Thérèse. Parce que quand on est en contact avec la vie de Thérèse, en fait, on est en contact avec l'œuvre de la grâce dans une personne humaine. Et cette œuvre, elle est pour tous, elle est pour nous. Le Seigneur, il nous dit à travers la vie de Thérèse, ce que j'ai fait pour elle, Cette intimité féconde que je lui ai donnée de vivre, elle est pour toi aussi. Elle est pour toi aussi. Alors, une fois qu'on est rentré en contact avec la vie, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait comme les premières filles de Sainte Thérèse à Saint-Joseph d'Avila. Elle voyait Thérèse avoir, il lui arrive des petites bricoles à l'oraison. Quand elle commençait à décoller, évidemment, les sœurs, elles étaient très 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 recueillies, mais elles ne pouvaient pas s'empêcher de jeter une petite œillade sur ce qui se passait là, au fond du cœur, du côté de la mère prieure. Et après, au chapitre, vous savez que dans toute communauté religieuse, et en tout cas les carmélites, il y a chaque semaine le chapitre où la prieure fait un enseignement. Évidemment, les sœurs, elles disaient ingénument, ma mère, et comment on fait pour rentrer en extase ? En fait, comment on fait pour entrer dans cette même relation d'intimité avec le Seigneur que celle que vous avez ? Et là, Thérèse, elle répondait, et ce contenu des chapitres, des premières années de Saint-Joseph d'Avila, ça va donner la deuxième œuvre, qui nous dit comment on fait pour accueillir cette œuvre de Dieu en nous. Et cette deuxième œuvre, c'est le chemin de perfection. 1565-1566. C'est le chemin de perfection qui nous dit comment accueillir la grâce de Dieu en nous. La vie, elle manifeste, le livre de la vie, il manifeste, et la vie en général de Thérèse, elle manifeste l'œuvre de la grâce que le Seigneur veut réaliser en nous, de sa propre initiative. Vous voyez, c'est quand même assez génial. Et là, on se dit, que devons-nous faire ? C'est comme dans les Actes des Apôtres. Frères, que devons-nous faire ? Et ça, Thérèse répond par le chemin de perfection, qui est l'œuvre qui n'a jamais, autant les œuvres mystiques de Thérèse ont connu des interruptions pour diverses raisons dans les éditions, autant il y en a une qui a toujours été éditée sans la moindre réserve, c'est le chemin de perfection. C'est celle qui a été le plus éditée dans toute l'histoire de Thérèse. Je ne sais plus à combien on est de centaines d'éditions, mais c'est énorme. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on accueille avec le chemin de perfection. Et puis, si on accueille la grâce... La grâce, c'est la vie. Or, la vie, elle se transmet toujours. Elle est féconde. Regardez Thérèse, elle accueille la vie. Et cette vie la rend féconde. Elle fonde non seulement une nouvelle famille religieuse, les Carmes et Carmélites déchaussées, mais aussi, elle a un rayonnement incroyable autour d'elle, et encore 4 siècles plus tard. Cette fécondité, elle est manifestée dans une troisième œuvre. C'est le livre des fondations. Les fondations, le livre des fondations, et au passage, si vous voulez un premier contact avec Thérèse, avec les écrits de Thérèse, je vous conseille, ça c'est le conseil habituel des frères Carmes, vous commencez par le livre des fondations. Vraiment, je vous conseille ça, c'est le plus facile, et ça vous laissera le temps de vous habituer au style thérésien, et après vous pourrez attaquer le reste. En tout cas, je vous déconseillerais en tout cas de commencer par les demeures, ce qu'on fait spontanément, mais c'est plus difficile, quoi. Alors que le livre des fondations, vous êtes en contact direct avec Thérèse. Voilà, donc... Troisième livre, on est témoin de cette fécondité, c'est le récit de ses fondations. Et puis, quatrième grande œuvre, 1577, je vous en ai déjà touché deux mots, c'est le château intérieur, qui est comme la clé de voûte de tout l'enseignement thérésien, qui est une généralisation de son expérience spirituelle. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était en fait un récit de la vie de Thérèse, mais c'est un récit qui est fait à la troisième personne, ou une troisième personne qui ne trompe personne. D'ailleurs, à un moment, Thérèse, dans les sixièmes demeures, elle dit, je connais très bien, je peux vous assurer que cette personne-là, elle dit vrai parce que elle et moi ne faisons qu'un. Mais c'est cette troisième personne, elle a un sens profond dans l'œuvre, c'est que elle manifeste que ce que le Seigneur a fait vivre à Thérèse, il veut le faire vivre, c'est un enseignement universel, c'est un chemin universel, et dans les demeures, c'est cette généralisation. Autant la vie, c'est à la première personne, autant dans les demeures, il y a un ordonnancement, ce qui est trop particulier passe au second plan, de façon à ce que pouvoir toucher tout le monde et qu'on comprenne qu'est-ce qui, dans l'expérience de Thérèse, relève de sa grâce propre et de son enseignement ou de sa grâce universelle. Bien. Vous avez les 4 œuvres. Pour finir, les 2 dernières minutes qui me restent, comment entrer en contact avec Thérèse ? La première chose, bah, vous avez compris, si j'ai réussi à me faire comprendre, hein, il faut un contact avec la vie, mais la vie au sens large de Thérèse. C'est comme ça, bah, oui, un ami, bah, c'est en étant en contact avec lui que vous allez entrer en relation avec lui. Hein. Donc il faut commencer par ça, un contact avec la vie. Alors je vais vous donner plusieurs pistes. Première piste, bon, ça fait pas très académique, c'est la série en 8 épisodes de la télévision espagnole de 1983, hein, Teresa de Jesús, sous-titrée en français. Si vous savez pas comment vous la procurer, vous pouvez venir me voir, je vous donnerai un... Et on va regarder, je crois, un épisode, voilà. Elle est historiquement à peu près parfaite, parce que on voit vraiment vivre... Tout, pour l'instant, j'ai trouvé aucun détail qui est résisté, dont j'ai pas trouvé le document d'époque qui justifiait. Il y a des détails qui ont résisté longtemps, mais par exemple qu'elle ait des lunettes à partir de 1575. Effectivement, j'ai trouvé ça dans les procès de canonisation l'année dernière. Hein. Vous voyez, ça va jusque là où il y a une histoire de comète dans le troisième épisode, et la comète, effectivement, il y a une histoire de comète qui est. Voilà, il se passe pas exactement la même chose, c'est un peu un prétexte cinématographique, mais effectivement, il y a eu une comète à cette époque dans le ciel d'Avila, enfin, qui a marqué les esprits. Voilà. Donc c'est vraiment, et comme on voit Thérèse vivre, même si l'interprétation de la mystique dans la série, bon, elle est plus que discutable, mais c'est pas grave, ça passe au second plan. Comme c'est très juste sur les événements extérieurs, eh ben, on rentre vraiment en contact avec la personne. Donc ça, le film. Donc ça, c'est vraiment très bon. Voilà, si vous voulez l'acquérir, je vous ai dit, je peux vous donner quelques tuyaux. Pour 20 euros, 8 épisodes, c'est quand même une bonne opération. Et surtout, rentrer en contact avec Thérèse, quoi. Pour 20 euros, c'est donné. Hein. Deuxième chose, il faut lire une vie de Thérèse. Hein. Alors là, je vais vous recommander deux titres. Si vous voulez pas lire plus que 152 pages, petit format écrit gros, la vie de Bernard, écrite par Bernard Cézé. Petite vie de Thérèse d'Avila, simple et juste, voilà, c'est vraiment le... Si vous voulez quelque chose d'un peu plus consistant et qui a honnêtement mis en contact, enfin c'est un livre qui a une grâce, hein, c'est La vie par Marcel Auclair. Bon, certains d'entre vous l'ont sûrement lu. Elle a beau avoir 60 ans d'âge, elle a rien perdu de sa pertinence historique. La seule chose, c'est qu'on ne connaissait pas les origines juives de Thérèse à cette époque-là, c'est la seule chose. Sinon, le reste, elle est très fiable parce qu'en fait, c'est la première vie qui a été écrite en exploitant le procès de canonisation. Et donc, du coup, bah, comme c'est la principale source avec ça, et puis l'auteur était une grande amie de Thérèse d'Avila, du coup, elle la sent de l'intérieur, et la Thérèse qui est reflétée par cette vie est vraiment la vraie, quoi. Biographie. Maintenant, si vous voulez lire Sainte Thérèse dans le texte, j'aurais tendance à vous dire, commencez par la vie, la biographie, le film, ou voilà, il faut commencer graduellement. Lire Sainte Thérèse dans le texte, je vous recommande de commencer plutôt par les fondations, je vous l'ai dit. Après à la grâce de Dieu. Hein, après à la grâce de Dieu, selon ce que vous avez envie ou que vous avez dans votre bibliothèque. La question des traductions. On a 4 traductions disponibles en français, enfin 3 intégrales et une quatrième, là, celle de la Pléiade. On a de la chance parce que pour Thérèse, honnêtement, les traductions sont de bonne qualité. Elles ont leurs qualités, leurs défauts chacune. Mais contrairement à Saint-Jean-de-la-Croix, on dispose de vraies bonnes traductions qui disent ce que Thérèse veut dire. Alors le seul problème, c'est son prix. Mais si vous avez le choix qui réalise le meilleur équilibre entre la fidélité au sens et la fidélité au style, au génie littéraire de Thérèse, le meilleur équilibre, c'est probablement celle du cerf. Hein, donc le problème, c'est que c'est hors de prix. Donc là, moi, j'ai le volume des lettres. Pour les lettres, il n'y a pas à hésiter, c'est le cerf qu'il faut privilégier parce que c'est la seule qui soit complète. Puis il y a des notes. Et pour les œuvres spirituelles, enfin les autres œuvres, voilà. Après, Marcel Auclair, elle a vraiment le genre littéraire, vraiment elle a la plume. Par contre, quand c'est un peu dogmatique, parfois elle ne comprend pas, hein, ou elle a compris de travers. En général, c'est tellement énorme que si vous êtes un peu familier de Thérèse, vous dites « oulala, il y a un problème » et vous allez voir une autre traduction. Ou voilà. Et puis Grégoire de Saint-Joseph, alors lui, en général, il comprend bien. Par contre, parfois, il glose un peu. Hein. Il glose un peu, il explique un peu. Enfin, voilà, c'est pas... Bon, voilà. Après, c'est tout à fait utilisable. Très bien. Ben, je vais m'arrêter là. Je vous remercie.